Merci d'écouter RFI, 13h en temps universel. Il est 15h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Contner.
Dernière partie de RFI Midi avec Haïti à la une. Les Nations Unies se penchent aujourd'hui sur l'avenir de la mission multinationale, alors que le président du Conseil de transition sème le trouble quant à la passation de pouvoir prévue en fin de semaine. La présidence de ce Conseil était censée être tournante. Ça n'est plus si clair, on verra ça tout à l'heure. Et nous irons à Port-au-Prince, où beaucoup de familles ne pourront pas renvoyer leurs enfants à l'école pour la rentrée demain. Comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, on parlera avec vous de la situation toujours bloquée en Guadeloupe, entre l'entreprise d'électricité EDF et le syndicat CGTG.
L'intervention par visioconférence de la directrice des relations humaines du groupe EDF n'a pas plu au syndicat qui exige une présence sur place. Nous entendrons tout à l'heure notre confrère de la première Guadeloupe, Éric Bagassien.
À tout à l'heure, et on reviendra aussi sur le parcours de Kris Kristofferson, acteur, musicien qui avait notamment inspiré Bob Dylan, rien que ça. Il est décédé à 88 ans et toute la presse lui rend hommage aux États-Unis.
RFI Midi.
Et avant tout cela, le journal avec vous, Charlotte Hydrac, et cette question. Qui pour succéder à Hassan Nasrallah après la mort du chef du Hezbollah? Le mouvement assure qu'un nouveau leader sera choisi au plus tôt.
Dans une déclaration à la télévision, le numéro 2 du mouvement chiite libanais, Naïm Kassem, affirme aussi que le Hezbollah poursuivra sa lutte contre Israël et se dit prêt à faire face à une éventuelle opération terrestre israélienne au Liban. Alors pour le moment, les raids aériens se poursuivent. L'armée israélienne a notamment frappé le sud du pays où le chef du Hamas au Liban a été tué. L'armée libanaise annonce également là la mort d'un de ses soldats dans une frappe de drone. Elle frappe également au centre de Beyrouth, dans la capitale intramuros, une première depuis près d'un an. Reportage dans le quartier de Kola, Ablajounaidi et Jadel Khoury.
La petite tente blanche, saturée de dizaines de portraits désormais tristement familiers pour tous les Israéliens, est installée à côté de la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Objectif, maintenir la mobilisation pour la libération des otages. Sollicité par RFI et sursollicité par les médias du monde entier depuis un an, les représentants des familles n'ont pas souhaité s'exprimer. Mais les volontaires qui les accompagnent, comme Omer, se font leur porte-parole.
Je veux vraiment appeler le gouvernement à prendre conscience qu'il faut parvenir à un accord. Au Liban, à Gaza, un accord est nécessaire avec toutes les entités hostiles qui nous entourent pour ramener les otages à la maison. L'action militaire à elle seule ne le permettra pas. Au mieux, certains otages rentreront chez eux et les autres seront tués. Et nous ne pouvons pas accepter ça.
Anna distribue des bracelets et répond aux questions des passants. Arrivée d'Argentine il y a une quarantaine d'années, elle voit dans l'offensive israélienne au Liban un abandon des otages.
Ça complique un peu les choses. On pouvait faire toutes ces opérations contre ceux qui nous attaquent plus tard. Il faut les bombarder, on n'a pas d'autre solution. Mais les actions les plus importantes, comme tuer Nasrallah, auraient pu se faire plus tard. Je pense que les otages ne sont pas la priorité du gouvernement. De la population, oui, mais pas du gouvernement.
Sur les 251 otages enlevés le 7 octobre dernier, 101 sont toujours détenus, selon le décompte des familles. Parmi eux, l'armée en considère une trentaine comme morts. David Baché, Jérusalem, RFI.
Et vous l'aurez compris, erreur d'aiguillage. Donc ce reportage signé David Baché en Israël auprès des familles des otages pour qui la mort d'Hassan Nasrallah éloigne les perspectives de libération. J'ajoute cette déclaration du ministre israélien de la Défense qui prévient l'élimination du chef du Hezbollah était une étape importante, dit-il, mais n'est pas la dernière.
Le prix Vaclav Havel du Conseil de l'Europe décerné à Strasbourg et la lauréate est...
Maria Corina Machado, l'opposante vénézuélienne. Ce prix récompense des actions exceptionnelles en faveur des droits de l'homme. Et le jury, Carlotta Morteo, a qualifié donc Maria Corina Machado de défenseur de la démocratie.
Oui, cette femme de 56 ans vit dans la clandestinité aujourd'hui à cause du rôle qu'elle a joué lors des élections présidentielles au Venezuela en juillet dernier. Déclarée inéligible, elle a mené une campagne vigoureuse pour le camp de l'opposition, puis a pris la tête de la contestation après la proclamation de la victoire de Nicolas Maduro à un troisième mandat. Le scrutin a été entaché de fraude. Les procès-verbaux de l'opposition donnaient 67% des voix au mouvement de Maria Corina Machado, tandis que de son côté, le gouvernement n'a pas présenté de preuves des résultats dénonçant un piratage du système. Les manifestations post-électorales ont été réprimées, des milliers de personnes arrêtées. Un mandat de capture a été émis contre Maria Corina Machado. Cette ancienne députée, issue de la droite libérale vénézuélienne, est une opposante de la première heure du défunt leader de la révolution bolivarienne. Il y a 22 ans déjà, le président Hugo Chavez avait refusé de débattre avec elle. L'aigle ne chasse pas les mouches, avait-il dit. Eh bien, la mouche est devenue la principale incarnation d'une alternance politique. En visioconférence, Maria Corina Machado a dédié ce prix à Clavavel, je cite, à tous ceux qui luttent pour la liberté au Venezuela, un pays dont, je le rappelle, ont fui plus de 7 millions de personnes.
Carlota Morteo. Les secours toujours à pied d'œuvre dans l'Est et le Sud-Est des États-Unis, balayés par le cyclone Hélène.
Le dernier bilan, encore provisoire, est d'au moins 93 morts. Hélène, qui a touché terre en fin de semaine dernière en tant qu'ouragan de catégorie 4, il a un peu perdu de son intensité, mais il a provoqué de gros dégâts, Pauline Glaise.
Oui, des victimes sont à déplorer dans au moins 6 États. La Caroline du Nord portant le plus lourd tribut. Et vous l'avez dit, le bilan pourrait encore s'alourdir. Des centaines de personnes n'ont toujours pas pu être contactées par leurs proches. Il faut dire aussi que certaines communications sont coupées, des antennes de téléphonie mobile sont hors service et plus de 2 millions de foyers sont encore privés d'électricité car le bilan matériel est très lourd lui aussi. Les images diffusées par CNN montrent des bâtiments éventrés, encombrés d'amas de détritus. Réseaux d'eau et routes sont également endommagés. 4 axes nationaux sont coupés, par exemple entre le Tennessee et la Caroline du Nord. La Caroline du Nord, dont le gouverneur parle de catastrophe aux proportions historiques, et des crues sont encore à craindre en raison d'un risque de rupture de barrage. L'ouragan Hélène s'est invité dans la campagne présidentielle. Kamala Harris a prévu d'écourter un déplacement de campagne pour participer à des réunions. Son rival Donald Trump doit lui se rendre dans une ville sinistrée de Géorgie et le président Biden devrait se déplacer dans les prochains jours.
Pauline Glaise, en France, c'est un procès risqué pour le RN qui s'est ouvert à Paris à la mi-journée. Le Rassemblement national, sa dirigeante Marine Le Pen et une vingtaine de cadres sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics européens pour de faux assistants parlementaires qui étaient en fait des salariés du parti, selon l'accusation. Marine Le Pen s'est dite très sereine et assure n'avoir violé aucune règle.
Vers des élections législatives anticipées au Japon, c'est en tout cas ce que souhaite le futur nouveau Premier ministre pour le 27 octobre.
Shigeru Ishiba, qui succédera demain mardi au chef du gouvernement Fumio Kishida. Et avant même sa prise de fonction, cette désignation est déjà assez mal accueillie par les marchés. Arthur Ponchelet, ce lundi, à la Bourse de Tokyo, le Nikkei a plongé.
Oui, une chute de près de 5% à l'ouverture pour l'indice vedette japonais. Une baisse significative que les experts attribuent à deux facteurs. D'abord, l'appréciation du yen face au dollar, mais surtout les craintes suscitées par l'élection de Shigeru Ishiba au poste de Premier ministre. Car dans sa campagne, ce vétéran de la politique nippone s'est dit favorable à une hausse de l'impôt sur les sociétés, mais aussi à un renforcement de l'imposition des revenus financiers. Autre promesse de campagne qui inquiète les investisseurs, sa volonté de stimuler la productivité et d'augmenter le salaire minimum horaire. Il passerait progressivement de 1000 à 1500 yens, soit un peu moins de 10 euros. Shigeru Ishiba est aussi perçu comme un soutien de la politique de hausse de taux de la Banque du Japon. Objectif affiché, faire baisser le prix des produits importés et donc stimuler le pouvoir d'achat des Japonais. Reste qu'il faut rassurer les investisseurs. Charlotte, c'est ce qu'il a tenté de faire ce week-end en déclarant que les emprunts devaient rester peu coûteux au Japon.
Arthur Ponchelet. Et puis ce coup de tonnerre pour le foot français. Antoine Griezmann dit au revoir à l'équipe de France. À 33 ans, il prend sa retraite internationale. Dans une vidéo sur son compte X, le champion du monde 2018 explique vouloir tourner la page et laisser la place à la nouvelle génération. Réaction de son ex-sélectionneur Didier Deschamps. Du fond du cœur, merci pour tout mon Grisou.
Grisou encore plus apprécié depuis son suivi sans faille des JO il y a deux mois et son fameux alerte médaille qui était posté à chaque médaille française. Maintenant, on sait qu'Antoine Griezmann est aussi
le chouchou.
Un très bon supporter. Merci Charlotte Hydrac.
Merci.
Nos auditeurs vous retrouvent dans deux heures pour un prochain journal. Et nous allons parler de l'actualité du continent américain pendant les 20 prochaines minutes.
Le journal d'Haïti et les Amériques sur RFI.
Avec Haïti à la une. Haïti de nouveau au cœur d'une réunion aux Nations Unies aujourd'hui, cette fois pour parler de l'avenir de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Cette force, toujours déployée très partiellement sous la houlette du Kenya. Et à quelques heures de la réunion, la presse, que vous avez lue pour nous, Christophe Paget, fait part d'un recul de la part des États-Unis dans ce dossier.
Oui, l'information est relayée en Haïti par Radio Télémétronome, qui reprend une dépêche de l'agence de presse Reuters. Les États-Unis abandonneraient leur projet de transformer la mission multinationale de soutien à la sécurité dans le pays en mission de paix de l'ONU. En tout cas, pour le moment, précise le Miami Herald. En cause, selon certains diplomates, la pression de la Russie et de la Chine qui auraient brandi la menace de leur veto. La proposition de transformation de la force a en tout cas été enlevée du texte qui sera mis au vote ce lundi, vous l'avez dit, au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'extension d'un an du mandat de la MMSS. Car si la police kényane n'est arrivée sur place que fin juin, la mission avait en fait été approuvée dès octobre 2023.
Un changement de la mission, une transformation en mission de l'ONU. Cela avait été évoqué il y a quelques jours par le président du Conseil de transition haïtien à la tribune de l'ONU. Lui est pour. Vraisemblablement, donc, ça ne sera pas le cas. Edgar Leblanc-Fils est de retour à Port-au-Prince. Et ses dernières déclarations sur la passation de pouvoir au sein du Conseil de transition, ce samedi, on rappelle que la présidence est tournante. Ces déclarations, Christophe, ont semé le trouble.
Oui, c'est en tout cas l'analyse de Gazette Haïti qui parle d'une ambiguïté. Lors d'une conférence de presse à son retour, Leblanc a été interpellé par un journaliste de Radio Métropole qui lui a demandé s'il comptait rester en poste après le 7 octobre, date à laquelle Smith Augustin devrait en principe lui succéder. Sa réponse a suscité la surprise, Edgar Leblanc évitant une réponse claire, préférant rappeler son statut de président du Conseil présidentiel de transition, sans pour autant confirmer ou infirmer une éventuelle continuité ou passation de pouvoir.
L'incertitude politique et le quotidien toujours aussi difficile, notamment dans la capitale haïtienne. C'est la rentrée des classes cette semaine, mais beaucoup de parents ne sont pas prêts. D'abord, beaucoup ne vivent pas chez eux, mais dans d'autres quartiers, à cause de la violence des gangs. Un certain nombre d'écoles de Port-au-Prince et des environs sont d'ailleurs toujours occupées par des déplacés. Et surtout, de nombreuses familles n'ont pas les moyens de payer les frais scolaires sans une aide gouvernementale restée pour l'instant au stade de promesses. Reportage, Peterson Luxama.
À la veille de cette rentrée, les parents ne cachent pas leur inquiétude. Croisés non loin du ministère de la Communication et de la Culture, institution publique transformée en camp de déplacés, Carl, mécanicien et père de trois enfants, porte ses vêtements de travail. Il vient à peine de réparer le moteur d'une voiture.
La situation est catastrophique ici. La majorité des parents, compte tenu du problème de sécurité, ne travaillent pas. Comment pouvons-nous assurer le retour de nos enfants à l'école? Pour ce faire, nous devons avoir un minimum de moyens. Même les carnets et les bulletins scolaires ne sont pas encore récupérés dans les directions. Nous, les parents, on n'en peut plus. Nous n'avons même pas le minimum pour faire face à nos responsabilités.
Tourmenté par les soucis économiques, Philippe s'interroge.
Pour moi, cette réouverture reste une illusion. J'habitais à Carrefour-Feuille, les bandits m'ont chassé et sont partis avec tout ce que je possédais. Je ne peux pas parler de reprise des cours pour cette année. J'ai deux enfants, celui qui est en troisième année de médecine, je vais devoir le faire arrêter parce que je ne pourrai pas continuer à lui payer les frais de scolarité.
Habitante, elle aussi, de Carrefour-Feuille, ce quartier de Port-au-Prince envahi par des bandits armés, Jocelyne fait face aux mêmes difficultés. Si avant, elle pouvait envoyer ses enfants à l'école dès le premier jour de la rentrée, cette année, les choses deviennent très compliquées pour elle après avoir perdu sa maison et sa petite boutique. Permettre à ses deux fillettes de prendre le chemin de l'école est un pari que cette mère de 37 ans semble avoir perdu d'avance.
Moi, je ne peux pas parler de rentrée scolaire parce que je ne vis pas, j'existe tout simplement. Avant, je pouvais envoyer mes deux enfants à l'école, mais malheureusement, cette année, ça ne sera pas possible.
Assise devant son petit commerce sur le trottoir, Magdala, mère de trois enfants qui vit dans le camp de déplacés du lycée Firmin, ne sait pas, elle non plus, si elle pourra envoyer ses enfants à l'école. Une semaine avant la reprise, elle n'avait encore acheté aucune fourniture.
J'ai entendu que les cours allaient reprendre. Franchement, c'est une illusion pour moi. Je n'ai encore rien préparé pour mes enfants. Ne serait-ce qu'un crayon et des cahiers. Je ne peux pas les acheter.
L'argent, un casse-tête aussi pour Jean-Robert, quinquagénaire, qui habitait la rue du Centre à Port-au-Prince. Mais il compte se battre bec et ongle pour permettre à ses enfants de retrouver les bancs de l'école, même si c'est dans les prochains mois.
Il n'y a rien, aucun moyen. Auparavant, je travaillais au bas de la ville, mais maintenant, je ne fais plus rien. Mais je m'efforcerai de trouver un moyen, même si ce n'est qu'en janvier que je renvoie mes enfants à l'école. La situation est très difficile et l'État s'en fiche.
Face à cette dure réalité, le gouvernement prévoit cette année de verser 20 000 gourdes, l'équivalent de 150 dollars américains, à 261 000 parents d'élèves. Antoine Augustin est le ministre haïtien de l'Éducation.
Ce projet vise à soulager les parents d'élèves des écoles nationales, communales et communautaires et certains autres parents dans les zones défavorisées. Il permettra à chaque parent de recevoir une assistance de 20 000 gourdes pour les aider à atténuer leur souffrance à l'occasion de la reprise des cours.
Une démarche critiquée par des organisations d'enseignants, dont l'Union Parents d'élèves progressistes d'Haïti, UPEP. Cette aide ne représente rien par rapport aux nombreux défis auxquels sont confrontées les familles, selon Léo Lutolu, responsable de cette structure.
Est-ce que 15 à 20 000 gourdes qu'octroie aux parents le ministère de l'Éducation nationale peuvent réellement résoudre le problème ? La réponse est non. C'est seulement un geste symbolique. Quand bien même ce serait entre 50 et 100 000 gourdes, les parents chercheraient avant tout à trouver un abri. L'État doit, pour une fois, assumer et prendre les dispositions nécessaires pour faciliter le retour de tous ceux qui ont été chassés de leur maison par les groupes criminels.
Quelques 600 000 personnes qui ont été déplacées par la violence des gangs. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Direction les États-Unis à présent, où l'ouragan Helene continue de semer la désolation. Les images très impressionnantes s'affichent en une de la presse, Christophe Paget, qui recense 100 morts et ce bilan n'est pas définitif.
Oui, USA Today parle d'une dévastation d'ampleur biblique de près de 1000 km de la Floride au Tennessee, précise le New York Times, qui a cartographié en images et en vidéo le chemin de destruction creusé par l'ouragan. Dans le Tennessee à Newport, c'est une maison mise à nu dont il manque toute la façade, ou encore à Irvine, un hôpital submergé par les flots jusqu'au toit. En Floride, la ville de Horseshoe Beach a vu une partie de ses maisons littéralement aplatie et réduite en copeaux de bois.
Mais c'est la Caroline du Nord qui a payé le plus lourd tribut avec au moins 37 morts.
Comme une bombe, c'est ainsi que le Winston-Salem Journal décrit le passage de l'ouragan, reprenant les mots du gouverneur de Géorgie, Brian Kemp. Le quotidien rapporte que Roy Cooper, le gouverneur de Caroline du Nord, cette fois, a demandé que le président Biden déclare 38 comtés de son État en état de catastrophe majeure. Le Washington Post raconte comment Helene a avalé une ville située sur une montagne, l'effaçant totalement. Car ce sont en partie les villes nichées dans les montagnes couvertes de forêts de l'ouest de l'État qui ont subi les destructions les plus importantes, explique le New York Times. Et les habitants sinistrés luttent pour faire face à leurs besoins de base en eau, nourriture, électricité, essence ou encore services téléphoniques.
Et les perspectives sont assez sombres puisque les scientifiques, Christophe, estiment que le nombre d'ouragans de type Helene devrait augmenter.
Et ils ont déjà augmenté. Ces désastres naturels qui ne semblent plus naturels, écrit USA Today, qui reprend les témoignages d'habitants de Floride, mais aussi d'autres États, qui voient le nombre de ces catastrophes naturelles augmenter, avec des coûts qui ont explosé, 18 milliards par an ces 5 dernières années, au lieu d'un milliard par an depuis le début des années 80.
On reste aux États-Unis pour parler politique. La campagne électorale se poursuit avec un Donald Trump fidèle à lui-même, peut-être un peu trop même, au goût de certains observateurs et responsables politiques. Mais le candidat républicain a clairement choisi sa ligne pour conforter sa base. C'est la provocation, Guillaume Nodin.
Quand on lui dit qu'il va peut-être un peu loin, en général, Donald Trump récidive. Ses commentaires de la veille à Prairie du Chien dans l'état du Wisconsin ayant fait parler, il persiste et signe.
Joe Biden, l'escroc, il est devenu déficient mental. C'est triste. Mais Kamala Harris, la menteuse, honnêtement, je pense qu'elle est née comme ça.
Les termes sont violents, comme les attaques des nuits de fondement sur le Congo qui enverrait ses prisonniers aux États-Unis ou encore celle-ci.
Kamala promet d'abolir les soins de santé privés et de forcer tout le monde à aller vers des soins de santé publics socialistes avec de lourds impôts et des temps d'attente mortels. Vous attendrez parfois 6 ou 7 mois. Et elle soutient le changement de sexe gratuit pour les étrangers illégaux détenus sur le dos du contribuable. C'est pourquoi dans 5 semaines, nous allons lui dire « Kamala, tu as fait un horrible travail comme vice-présidente, tu es la pire garde-frontière de l'histoire du monde et pas seulement de notre pays. Nous devons changer. Kamala, tu es horrible. Kamala, tu es virée. »
Le public est ravi et pendant qu'il est chaud, Donald Trump lui demande, et c'est nouveau par rapport à il y a 4 ans, de voter par correspondance et par anticipation. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Autre sujet à lire dans la presse du continent américain ce lundi, Christophe Pagès, c'est le revirement diplomatique de Javier Milei. Le président argentin a changé d'avis sur la Chine.
Oui, alors que, rappelle Clarine, il était très critique de Pékin lors de sa campagne électorale. Nous ne signons pas de pacte avec les communistes. Eh bien, ce dimanche, lors d'une interview, Javier Milei a annoncé qu'il irait en janvier prochain en Chine. J'ai été agréablement surpris par la Chine. La Chine est un partenaire commercial très intéressant, car elle n'exige rien. Tout ce qu'elle demande, c'est de ne pas être dérangée. Clarine note que déjà depuis son élection, Javier Milei était resté très prudent avec Pékin.
L'actualité du continent, c'est aussi ce message envoyé par le Conseil de l'Europe à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. C'est à elle que revient le prix des droits de l'homme Vaclav Havel, on en parlait dans le journal. L'opposante, qui vit dans la clandestinité depuis la présidentielle de juillet et la réélection contestée de Nicolas Maduro, a réagi tout à l'heure en estimant que la dictature courait à sa chute inévitable. 13h20 en temps universel, on va prendre maintenant la direction de la Bolivie où un groupe d'étudiants d'El Alto tente de protéger l'environnement en s'attaquant à la question des déchets. Aujourd'hui, 16% seulement sont collectés correctement dans le pays. Tout le reste finit dans des décharges à ciel ouvert ou bien brûlé en plein air par des habitants. Et bien ces étudiants, eux, font le tri, récupèrent les déchets organiques afin de les transformer et de les réutiliser. Notre correspondant Nils Sabin est allé les rencontrer.
C'est en fin d'après-midi que l'on rencontre Juan, étudiant de première année à la faculté d'agronomie d'El Alto.
Bonjour. Est-ce que vous auriez des courges en mauvais état que vous comptez jeter ?
Comme tous ses camarades, il a pour mission de ramener chaque semestre 100 kg de déchets organiques jusqu'à la faculté. Chacun se débrouille à sa façon pour atteindre son quota. Cet après-midi, Juan tente sa chance du côté des vendeurs de courges.
Je viens de la faculté d'agronomie et nous récoltons les déchets organiques, que ce soit des courges, des oignons ou des tomates. On en fait du compost, du lombricompost et du gaz avec un biodigesteur.
La chance semble lui sourire. Cette vendeuse, plutôt surprise par sa démarche, lui propose de récupérer une énorme courge de 8 kg qui est en train de pourrir. Mais Juan ne s'arrête pas là. Quelques étals plus loin, il se met à ramasser un énorme tas de cosses de petits pois qu'une commerçante a jeté à terre. De son propre aveu, il reconnaît qu'avant d'arriver à l'université, il ne savait pas ce qu'était du compost ou un biodigesteur et que quand il en parle autour de lui, les gens sont étonnés que l'on puisse ainsi réutiliser les déchets organiques.
Souvent, on me demande « Mais pourquoi tu récupères ces déchets ? Où tu veux les amener ?» Je réponds qu'on va produire du compost et du gaz. Au début, on ne me croyait pas, puis ils ont vu des articles dans les médias et ont été impressionnés que l'on puisse tirer autant de bénéfices de ces déchets.
C'est en partie pour sensibiliser à la réutilisation de ce type de déchets que la faculté d'agronomie demande ce travail aux étudiants. À l'origine de cette idée, Humberto Sainz Mendoza, agronome et professeur que l'on rencontre à la station expérimentale de l'université à la sortie d'El Alto.
Quand je suis arrivé ici, la situation environnementale était catastrophique, donc j'ai lancé ce projet avec l'idée que les étudiants apprennent aussi à leurs parents. Je pense que ça les fait réfléchir et que même si à un moment ils arrêtent, ils savent qu'avec ce type de déchets, on peut faire de l'engrais ou du gaz.
Derrière l'agronome, plusieurs étudiants s'affairent à remuer d'énormes bacs remplis de compost et un peu plus loin, on aperçoit ce qui ressemble à première vue à une serre, mais qui est en fait le biodigesteur.
Là-bas au bout, on fait donc entrer les déchets qui vont ensuite fermenter avec des bactéries anaérobies, donc sans oxygène. C'est là que se forme le méthane, mais aussi d'autres gaz. Le plastique qui enferme tout ça est donc spécial, très flexible pour supporter la pression du gaz.
Tout au bout de la structure, un tuyau part dans une petite maison située à côté. À l'intérieur se trouve un réservoir qui peut contenir jusqu'à 1000 litres de gaz, relié à un petit réchaud. Et après quelques craquages d'allumettes ratés, miracle, des flammes bleues sortent du réchaud.
Avec ces 1000 litres, nous avons calculé qu'il y avait de quoi faire 3 repas réglementaires, c'est-à-dire 3 repas pour une famille.
Ce modèle de biodigesteur est surtout fait pour les zones rurales car il est assez volumineux. L'idée étant que les familles puissent aussi utiliser les déchets de leurs animaux pour alimenter le biodigesteur et ainsi profiter de gaz pour cuisiner ou avoir de l'eau chaude. Du côté des villes, certaines municipalités comme La Paz ou El Alto ont également lancé des programmes de compostage à des échelles réduites. Mais pour Humberto Sainz Mendoza, leur généralisation est difficilement envisageable.
Il y a un problème très délicat qui est que les déchets se payent à la tonne. Donc personne n'a vraiment intérêt à ce que les gens réutilisent leurs déchets organiques, car ça fera moins d'argent pour celui qui normalement les enterre. C'est un problème politique qui doit être résolu.
En attendant, l'ingénieur agronome continue de sensibiliser ses étudiants à la gestion des déchets. Nils Sabin, El Alto, RFI.
RFI Midi.
Et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler de l'actualité des Outre-mer françaises. En Guadeloupe, d'abord, où la situation est toujours bloquée dans le conflit qui oppose EDF au syndicat CGTG.
Les négociations auraient dû reprendre ce lundi, mais l'intervention par visioconférence depuis la métropole de la DRH du groupe EDF n'a pas plu du tout au syndicat guadeloupéen qui exige, lui, une présence sur place. Éric Bagassien.
La préfecture qui sert de facilitateur dans ce conflit a informé la CGT de la poursuite des négociations conformément à la demande du syndicat le 30, donc aujourd'hui, sous la direction de Isabelle de Rouilly, directrice des ressources humaines. Des négociations par visioconférence à partir de 9h en Guadeloupe, soit donc 15h en France. Proposition rejetée par la CGT qui exige la présence sur place de la directrice des ressources humaines. Le syndicat qui reporte son ultimatum du 30 septembre de 2 jours, soit donc au 2 octobre. Compte tenu, dit-il, de la désignation tardive de la représentante de la direction nationale EDF, la Guadeloupe ne devrait donc pas connaître de délestage d'ici le 2 octobre. Reste à savoir si la présidence EDF répondra aux nouvelles exigences de la CGT qui considère avoir déjà obtenu une première victoire.
On passe au conflit autour de la vie chère en Martinique. Le préfet étant actuellement à Paris, les négociations, discussions et autres tables rondes ne reprendront que lundi prochain, 7 octobre. Et en attendant, chacun donne son avis et avance ses propositions, à l'instar du coprésident du parti PIA, Jean-Philippe Nilor, qui estime qu'il ne faut pas se limiter à la question de l'alimentaire. Écoutez le député de la 4e circonscription de la Martinique au micro de Xavier Chevalier.
La vie chère, c'est aussi les pièces détachées auto, les abonnements internet, téléphoniques. C'est tous ces secteurs-là qui grèvent le budget des ménages martiniquais. 65% de nos dépenses relèvent des services. Donc, il faut aussi qu'au niveau de ces services, qu'on prenne des dispositions. Parce que le risque, si on compartimente trop et on se réduit trop à la question de l'alimentaire, c'est que ce qu'on pourrait gagner au niveau de l'alimentaire, on le perd d'ailleurs. On connaît les stratégies très pointues de certains. Je considère qu'il faut aussi commencer dès maintenant à prendre en considération d'autres questions, surtout que la question de l'aide véritable au transport aérien, la question d'un service public de transport aérien, ça concerne les passagers, mais ça doit aussi pouvoir concerner les marchandises. C'est une dimension qui impacte concrètement la question de la vie chère et des prix dans notre pays.
Jean-Philippe Nilor, affaire à suivre, comme on dit. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. On va jeter un dernier coup d'œil à la presse avec vous, toujours, Christophe Paget. Un hommage à une star américaine, acteur célèbre, chanteur vedette de la musique country. Chris Christopherson est décédé hier.
Oui, pour ceux qui connaissent, c'est lui qui avait écrit la chanson Me and Bobby McGee, dont Janis Joplin a fait un tube. Chris Christopherson avait 88 ans et écrit Rolling Stone. Les paroles poétiques de ses chansons ont transcendé le genre. Il a transformé les paroles des chansons en littérature, élevant son métier à une véritable forme d'art américain comme peu l'avait fait avant lui. Dans le même temps, rappelle le Washington Post, sa voix rocailleuse et son sex appeal lui ont aussi permis de développer une carrière à Hollywood. Il a entre autres joué dans A Star Is Born aux côtés de Barbara Streisand et dans le très beau film de Sam Peckinpah, Pat Garrett et Billy the Kid, aux côtés entre autres de Bob Dylan.
Bob Dylan qui s'était inspiré de Chris Christopherson. Paraît-il. C'est quand même l'un des meilleurs hommages qu'on peut rendre à un musicien. On va l'écouter justement avec une chanson écrite pour un autre mythe de la musique américaine, Johnny Cash. Le morceau s'appelle Morning Coming Down.
Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day.
I'd smoke my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street and caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way.
Et c'est ainsi que se termine RFI Midi. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très bonne journée sur RFI.